La Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes
Bonjour.
Atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de Stop Nucléaire Drôme Ardèche. Aujourd'hui, ça va être un enregistrement que nous allons vous passer, un entretien avec Michèle Rivasi qui s'est déroulé il y a quelques jours, mais elle est au Parlement européen aujourd'hui, elle ne pouvait pas être présente ni au téléphone ni physiquement. Donc ce sera un enregistrement. Mais avant cela, Georges, notre billettiste Fukushima, tu nous parles des efforts faits pour nettoyer les terres et les esprits avant l'accueil des Jeux Olympiques de Tokyo, en gros ce qu'on pourrait appeler donner l'élan nécessaire à l'oubli pour la poursuite nécessaire du nucléaire.
Voilà, c'est très bien résumé. Il faut donc, je vous salue d'abord, chères auditrices et auditeurs, il faut donc que les Japonais oublient tout pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et malgré la mascarade qui se met en place, via la décision du gouvernement japonais de rouvrir la totalité de la zone d'évacuation autour de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi à l'habitat dès mars 2007, dans les faits, rien n'est réglé. Plus de 9 millions de sacs poubelles contenant chacun 1 mètre cube de déchets contaminés sont répartis sur 114 700 sites au sein de la préfecture de Fukushima fin septembre 2015. Ces sacs plastiques enferment un temps terre et déchets radioactifs. Au total, depuis 2011, les dépenses de décontamination s'élèvent à 1,5 milliard d'euros, 727 millions d'euros pour 2016. C'est donc un coût exorbitant. Cette politique de décontamination qui berne les esprits en leur inculquant que tous les efforts sont faits pour protéger la vie n'a qu'un seul objectif, rassurer pour mieux contraindre au retour. Ce choix politique se met en place via une stratégie de communication sur le risque toujours plus pervers, assurant par exemple que le risque sismique ou celui d'une éruption volcanique serait plus prégnant que le risque nucléaire. Dixit, le docteur Kumagai Tomohiro, neurologue à l'université médicale de Fukushima. Néanmoins, les habitants ne sont pas dupes, et malgré l'appel du gouvernement au retour à vivre dans les zones contaminées, et sa décision de rouvrir la totalité de la zone d'évacuation en mars 2017, ce qui est une annonce, 12 000 personnes sur 100 000 réfugiés officiels ont ouvert un procès pour demander des dommages et intérêts, estimés au total à 895 millions d'euros. Il y a 100 000 réfugiés, dont 50 000 à l'intérieur du département, parmi eux 18 000 résident encore dans les logements provisoires, 30 000 habitent des logements du parc privé dont le loyer est pris en charge par l'État, et 650 personnes vivent dans des logements publics. Tous verront leur aide au logement prendre fin en mars 2017. Maintenant, du Japon à la France, il n'y a qu'un pas. Quand le taux tue, la situation japonaise a pour but de prouver au monde que l'on sait gérer une catastrophe nucléaire alors qu'on ne le sait pas. Pour ce faire, les institutions internationales jouent de tours de préjudication via le relèvement des taux de sécurité dits acceptables afin de permettre la réouverture de la zone d'évacuation au pied d'une centrale dont la déliquescence se poursuit au fil du temps. Ainsi, le journal officiel de l'Union européenne, on notera ici que cela ne concerne pas uniquement le Japon, du 17 janvier 2014, préparait le terrain en annonçant « Les niveaux de référence exprimés en doses efficaces sont fixés dans l'intervalle de 1 à 20 millisieverts par an pour les situations d'exposition existantes et de 20 à 100 millisieverts aigus ou annuels pour les situations d'exposition d'urgence. » Prenant le pas de la CIPR, la Commission internationale de protection radiologique, qui fait référence en la matière, le ministère de l'Environnement japonais soutient dans un rapport d'août 2014 qu'en deçà de 100 millisieverts par an, il n'y aurait aucune conséquence sur la santé, aux grandes dames des épidémiologistes spécialistes de ces questions. À ce rythme, lors d'un prochain accident, on peut prévoir qu'il y aura une diminution considérable de la surface de la zone d'évacuation, alors qu'il faudrait l'élargir. Cela permettra de faire chuter encore un peu plus le calcul du coût du risque de l'industrie nucléaire. C'est d'ailleurs ce que prévoit le plan CODIRPA, élaboré pour la France par l'Autorité de Sûreté Nucléaire en 2005, dont l'objectif est clair, puisqu'il s'agit de gérer la réhabilitation des conditions de vie dans les zones contaminées. Pourtant, cette même agence tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. L'allongement de la durée de vie d'un parc nucléaire français, déjà vétuste, laisse le président de l'ASN, Pierre-Franck Chevet, extrêmement prudent. Il a déclaré récemment qu'il faut imaginer qu'un accident de type Fukushima puisse survenir en Europe.
Il nous prépare donc au futur accident nucléaire. Merci Georges.
Voilà, vous êtes prêts?
Annie, en parlant d'accident nucléaire, toi, si tu veux parler d'un accident qui vient de se produire ces tout derniers jours.
Alors, il faut bien nuancer les incidents et les accidents. La nuance, des fois, est pas facile à trouver. Eh bien là, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, c'était le 31 mars. 500 tonnes, c'est un énorme bloc de béton de 500 tonnes qui s'est écrasé sur une centrale nucléaire en Seine-Maritime.
C'est pas un but.
Ce 31 mars 2016. Cela n'aurait pas dû arriver. C'est ce que l'on dit fréquemment après un incident mineur ou un accident grave dans le secteur nucléaire. Cela n'aurait pas dû arriver. Et pourtant, cette veille du 1er avril, au cours d'une opération de maintenance, un générateur de vapeur usagé de la centrale nucléaire de Paluel a basculé pendant sa manutention. Haut de 22 mètres et pesant 500 tonnes, ce générateur a basculé de toute sa hauteur et a terminé sa chute en position horizontale, en partie sur le béton du bâtiment du réacteur et en partie sur les plateaux de protection de la piscine du bâtiment qui ont pour certains été endommagés. Voilà ce que nous dit élégamment l'autorité de sûreté nucléaire. Heureusement, le réacteur 2 concerné en maintenance était en maintenance et était donc déchargé de tout son combustible nucléaire. Voilà encore l'exemple d'un scénario impossible, mais qui se réalise. Fâcheux, très fâcheux tout de même, quand on sait qu'EDF n'avait pas jugé bon de considérer ce risque comme plausible au moment de la conception de ce site nucléaire. Jacques Repussard, directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, dans le journal du dimanche rappelle, et je le cite, « Lors de la conception des réacteurs dans les années 1990, l'IRSN a souhaité que le scénario de la chute d'un générateur de vapeur soit explicitement pris en compte afin de démontrer que cela n'aurait pas de conséquences sur le bâtiment. » Mais EDF n'a pas donné suite, considérant qu'un tel scénario était impossible. Les matériels de manutention étant justement conçus pour qu'un tel événement n'arrive jamais. Donc, tout va très bien. EDF peut rassurer l'opinion en nous disant que l'événement n'a eu aucun impact ni sur la sûreté des installations, ni sur l'environnement. Mais l'accident fait tache et l'impossible une nouvelle fois est arrivé. Pour Stop Nucléaire Drôme Ardèche, ces travaux de maintenance, afin de prolonger de 10 ans la vie de réacteurs vieillissants sur l'ensemble du parc nucléaire français, sont à considérer comme une impasse dangereuse et inutile. Ces opérations de maintenance apparaissent surtout comme des opérations de communication d'EDF destinées à faire croire à la possibilité de prolonger le fonctionnement des réacteurs. Mais pour les leaders de cette industrie nucléaire aux intérêts financiers et géopolitiques inestimables, il faut continuer coûte que coûte. Bien que chaque année, des incidents plus ou moins graves viennent contredire les tenants de la fable du nucléaire sûr, pérenne et pas cher.
Eh bien, merci. Eh bien, un peu de Wichédid pour oublier ces incidents ou accidents.
Un petit.
Ça swing sur le plancher des vaches, dégueulasse. Le temps qu'il fait, les portes claquent, les volets tremblent, les tuiles dégringolent. On se croirait en avant, volatile, quadrupède, fond le gros dos, immobile dans la pinette. Faut dire qu'au niveau météo, tout fout le camp depuis quelque temps. Des précipitations inédites, inondations historiques pour la fonction publique. EDF, chemin de fer, France Télécom, Air Inter, c'est l'enfer. Si Madame Nature est en pétard, c'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir, qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité. Si Madame Nature a les nerfs, qu'elle remue ciel et terre, c'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière dont on la considère. Si Madame Nature pète les plombs, c'est qu'elle a ses raisons. Faut dire tous ces cargos qui dégazent, c'est fort et qu'on ratiboise. Elle doit trouver sa nase. C'est vrai qu'on la traite comme des rustres, que depuis l'illustre, ça fait une sacrée ardoise. Détergent, hydrocarbures, déchets nucléaires, c'est sûr, ça peut déplaire. Si Madame Nature est en pétard, c'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir, qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité. Si Madame Nature a les nerfs, qu'elle remue ciel et terre, c'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière dont on la considère. Si Madame Nature pète les plombs, c'est qu'elle a ses raisons. C'est qu'elle a ses raisons. Et c'est qu'elle a ses raisons.
Et voilà, effectivement, si Dame Nature s'énerve, eh bien, Michèle Rivasi, elle, va s'énerver. Donc, notre entretien avec Michèle sur les déchets et sur Tchernobyl.
De suivre la filière dont tu naquis, petit homme par étrange bizarrerie, de mère nature, de maman Lucie, j'étais bonobo, clama la bonobo.
Nous avons un tout petit problème technique, mais ça va revenir. Michèle Rivasi arrive. Vous êtes toujours sur Atomic Mag, l'émission de Stop Nucléaire Drôme Ardèche. Nous sommes avec Michèle Rivasi. Bonjour Michèle.
Bonjour.
Alors, vous êtes fondatrice de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, bien connue à Valence sous le nom de la CRIRAD, députée européenne dans la circonscription sud-est, et l'auteur d'un livre, Ce nucléaire qu'on nous cache, qui a été écrit en 1998, et de plusieurs rapports européens, notamment sur la gestion des déchets nucléaires, etc. On va en reparler. Vous avez écrit aussi la préface du livre Tchernobyl, 25 ans après, situation démographique et problèmes de santé dans les territoires contaminés, qui était un ouvrage collectif. 25 ans après, on est maintenant, on va commémorer les 30 ans de Tchernobyl. Pour beaucoup de personnes, maintenant tout le monde sait que le nuage vient passer nos frontières, mais on a peut-être par contre un petit peu oublié la situation des gens en Ukraine notamment, et puis dans les pays voisins. Et c'est un peu cet état des lieux qu'on aimerait faire avec vous avant. On parlera peut-être un petit peu aussi des problèmes de la Corse, puisque là on a une étude épidémiologique, puis on va y revenir. Mais déjà sur la situation en Ukraine aujourd'hui, parce qu'il y a des chiffres très impressionnants. On parle dans certains rapports de 25 000 à 125 000 morts, 200 000 invalides, etc. Il y a d'autres rapports plutôt proches de l'industrie nucléaire qui, eux, disent on a quelques centaines de morts parmi les liquidateurs, mais c'est pas bien grave. Et puis beaucoup de cancers, c'est peut-être les situations sanitaires locales et pas la radioactivité. Alors, quid de cela? Est-ce qu'on a vraiment une catastrophe d'un point de vue humanitaire en Ukraine ou pas?
Si, on a une catastrophe sanitaire due notamment aux liquidateurs. Il y a eu 800 000 personnes quand même qui sont intervenues au niveau de la centrale de Tchernobyl. On se rappelle toujours ces images où on voyait des gens intervenir pour enlever le graphite qui avait des protections minimales. Ça a été terrible parce que là, on envoyait les militaires à la mort, hein, on le savait pertinemment. Mais ces gens l'ont fait pour l'Union soviétique et puis pour sauver d'autres vies humaines parce que il fallait absolument enlever ces graphites et qui se consommaient sur le toit de la centrale. Maintenant, sur les chiffres, quand même, c'est incroyable. Mais ça, c'est très lié au nucléaire. On n'a pas de chiffres précis. Nous, on aurait voulu, et au début, il y avait une donnée sur les liquidateurs. Et de façon très surprenante, on leur a volé, si vous voulez, le logiciel qui contenait tous les noms des liquidateurs et qui était très suivi. Parce qu'à l'époque, l'Ukraine n'était pas indépendante, donc c'était géré par les Russes. Il y avait des hôpitaux, moi j'en ai visité un d'ailleurs à Kiev, où c'était des hôpitaux pour les gens qui intervenaient au niveau de la centrale. Mais après, on n'a pas su, il n'y a pas de traçabilité de ces gens-là. En tout cas, quand vous lisez le bouquin de Slivana Aleksevitch, oui, qui a obtenu le prix Nobel...
Livre redoutable à la lecture, mais passionnant.
Terrible. On voit bien, et moi je me suis rendue plusieurs fois, que ça soit d'ailleurs en Ukraine, mais aussi en Biélorussie, mais aussi en Russie, hein, puisque quand vous suivez le nuage de Tchernobyl, vous avez ces taches en léopard et des taches hyper contaminées, donc ça ne touche pas seulement l'Ukraine, eh bien, il y a eu des conséquences très fortes, et ça, c'est reconnu au moins sur les cancers de la thyroïde. Alors, les cas, c'est autour de 6 à 7 000 cancers de la thyroïde, à mon avis, il y en a encore beaucoup plus, mais cela avait été identifié. Après, il y a eu beaucoup de cas de leucémie, il y a eu beaucoup de cas de malformations, et notamment, il y a des hôpitaux où il y a des enfants qui sont issus, justement, de ces naissances avec des enfants malformés. Ça a été dramatique pour la population. Et je peux vous dire que ça fait maintenant 4 ans, quand j'ai été députée européenne, je suis allée dans ces régions contaminées où il y a à peu près 2 millions de personnes qui vivent encore, vous voyez qu'ils sont en dehors de la zone des 30
km, d'exclusion,
d'exclusion. Et ces gens-là vivent encore en terrain contaminé. Et là, on a rénové un hôpital, vous voyez, je l'ai pris sur des fonds européens. Et avec le professeur Yuri Bernazeski, on suit à peu près 3000 gamins. Et ce qui est très surprenant, donc ces 3000 gamins qui sont dans la région d'Ivankov, c'est des gamins qui ont des problèmes de santé, 80% des gamins sont malades, et ils ont d'énormes problèmes cardiovasculaires. Vous voyez, c'est des gamins qui ne peuvent plus faire de sport, pratiquement. Et alors, le problème, c'est que, vous voyez, on est à la troisième génération. On ne peut pas dire que c'est des gamins qui ont vécu, vous voyez, l'accident de Tchernobyl. Eh bien, même ces gamins-là ont des problèmes sanitaires. Alors, ce qu'on essaie de chercher, c'est le pourquoi du comment. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est un problème parce que toujours la nourriture est légèrement, vous voyez, radioactive? Et ça, on l'a pareil en Biélorussie ou en Russie. Mais vous voyez que ce qui caractérise le nucléaire, c'est l'opacité, c'est surtout pas de donner justement des informations en temps, dans les hôpitaux. Voilà. Et j'en veux beaucoup, moi, aux institutions européennes. D'ailleurs, je me suis beaucoup engueulée avec eux, parce qu'ils ont confié ça à des organismes qu'on appelle corps ou ethos, qui ont carrément trusté tous les fonds européens pour faire des études, mais en gardant la confidentialité de ces études. Et ce qui me fait très peur, il va y avoir un film qui va sortir sur Arte le 26 avril.
Oui.
J'ai vu ce film, on me l'a envoyé. Et je suis furieuse contre ce film. Parce que ce film, il veut dire quoi? Tous ces gens du nucléaire, et souvent il y a énormément de Français, ils vont là-bas, dans ces terrains contaminés, ils font des anthropogammamétries, c'est-à-dire qu'on voit sur le corps entier qu'est-ce qu'il y a comme radioactivité. Et quand on trouve des gamins à, mettons, 1000, 2000, même jusqu'à 40 000 becquerels par kilo, vous voyez, de césium à l'intérieur du corps, on est en train de culpabiliser les parents en disant « Oui, mais vous n'avez pas compris ce que c'est que la radioactivité, il ne faut pas leur donner ni des baies ni des champignons, il faut vraiment, quand vous rentrez dans la maison, changer de chaussures pour ne pas, vous voyez, déplacer la contamination, etc. etc. » Et ils sont en train de dire, parce qu'ils ont invité aussi des Japonais, vous voyez, ils sont allés aussi en Norvège par rapport aux Samis, vous savez, qui vivaient avec les troupeaux de rennes, pour leur dire, voilà, maintenant, il n'y a plus le choix, il faut vivre avec la radioactivité. Donc, on va vous expliquer ce que c'est, on va même vous donner des appareils pour que vous puissiez contrôler la radioactivité des produits que vous mangez. Et puis, si vous avez beaucoup de becquerels, vous voyez, donc, ces éléments radioactifs dans votre corps parce que vous consommez des aliments, eh bien, ça sera de votre faute. C'est-à-dire, ils sont en train de reporter la responsabilité sur les gens.
Sur les individus.
Et ça, ça me fait peur parce que c'est prémonitoire sur un accident nucléaire prochain. Vous voyez, avant-hier, justement, juste le jour des attentats, on faisait un colloque à Bruxelles, au Parlement européen, qui était 5 ans après Fukushima, que fait l'Europe ? Eh bien, moi, je soulevais le problème des nouveaux risques liés au nucléaire. Et je parlais des attentats. Et qu'est-ce que je vois en SMS? Les attentats à l'aéroport. Et il y avait un responsable, M. Jamais, de l'autorité de sûreté nucléaire, qui disait... Vous voyez, avant, on disait, il se peut qu'il y ait un Fukushima. Maintenant, on dit, il va y avoir un Fukushima. On s'attend à un accident. Et c'est vrai qu'on peut être inquiet, nous, les Français, parce que c'est là où on a le plus grand nombre de réacteurs en Europe. Et ils sont en train de modifier les normes, vous voyez, de contamination radioactive sur les aliments en cas d'accident. Ils les ont montées à un niveau incroyable. Vous voyez, c'était, par exemple, sur le césium, c'était à 370 sur le lait. Vous voyez, c'est passé à 1000, 1250.
C'est toute la campagne qu'a menée la CRIRAD, là, tout dernièrement, d'ailleurs, exactement. Sur les aliments. Vous voyez, nous en avait parlé avec Roland. Oui.
Mais c'est fou. Et après, on est en train de vous dire, oui, mais avant, c'était un millisievert par an, vous voyez, la dose cumulée sur une année. Eh bien, bon, à Fukushima, ils ont accepté 20 millisieverts en prenant que les radiations. Et surtout, en disant, eh ben, le problème d'un accident nucléaire, c'est surtout un problème humain. Et que d'évacuer les gens, vous voyez, ça les traumatise. À la limite, il vaut mieux qu'ils restent. Et dans le reportage, il n'y a rien qui est dit sur la santé. Il y a un ou deux témoignages où une femme dit, ben, sur mes quatre gamins, il y en a un qui est mort, mon frère est mort, etc. Mais c'est pas du tout... Qu'en est-il exactement? Où sont les chiffres? Et comme c'est les gens du nucléaire qui ont préempté en fait toute la recherche qui se fait là-dessus, eh bien on n'a pas les chiffres. C'est pour ça que moi, avec Yuri Bananzeski, on a créé une équipe de médecins en Ukraine. C'est des fonds européens qui sont allés directement à un hôpital, l'hôpital Kharkov, et au moins on est propriétaire des résultats. On commence à avoir toutes les études, on fait plein de mesures sur le sang, on fait plein de mesures, vous voyez, sur l'état des gamins, et en ce moment on est en train de voir si après, vous voyez, la désintégration radioactive, il y a des métaux lourds qui se concentrent au niveau du corps pour essayer de comprendre pourquoi ces gamins sont malades.
Petit homme par étrange bizarre, de mère nature, de maman Lucie, j'étais bonobo, clama le bonobo, pas peu fier en ça, de suivre la filière, mes cousins masculins, féminins. Parfois je me demande, soupir le bonobo, si ça valait la peine de se donner tant de peine pour que votre race guerrière, incendiaire, carnassière occupe toute la scène. Suivre la filière, c'est ainsi que vaincu sans une once de venin, sombrant dans sa tanière, disparu bonobo. J'étais bonobo, clama la bonobo, pas peu fier en ça. Suivre la filière, tandis que plus malin, l'homme passe partout, s'emparant de la terre, s'inventa un destin.
Donc maintenant, concrètement sur le terrain, on reprend la vie, on réamène des gens en Ukraine. Est-ce qu'il y a encore des zones qui sont pour l'instant encore complètement interdites?
Ah mais toute la zone des 30 km,
est toujours définitivement abandonnée.
Ouais. Mais il y a le désir du gouvernement actuel de dire, on va en ouvrir une partie.
Oui, alors c'est ce que je voyais là en 2015, c'est le projet de la raccourcir. Quoi.
Voilà, d'ouvrir une partie qui est un peu moins contaminée, de pouvoir faire en sorte à ce que les gens qui travaillent dans la centrale, parce que c'est du... Ça n'arrête pas, là, ils ont construit le shelter, c'est-à-dire cette espèce de grosse phage, vous voyez, qui va sur des rails et qui va couvrir la centrale nucléaire, mais après, il va falloir démanteler la centrale nucléaire. Donc, vous voyez, et ils voudraient que les rotations puissent se faire dans des zones un peu moins contaminée dans la zone justement qui est interdite pour l'instant. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a énormément la volonté un peu des Ukrainiens, c'est de dire ben, on va accepter aussi des déchets radioactifs qui viennent de l'extérieur. Parce que quand on voit les Hongrois, vous voyez, moi qui suis à l'Europe, je vois bien comment ils fonctionnent. Autant ils sont prêts, même les Polonais, à dire « Ah ben, on va construire de nouvelles centrales, mais on ne veut pas les déchets ». Et donc, il y a des deals qui se font maintenant avec la Russie. Ça, c'est déjà fait avec les Hongrois, où il y a eu, dans la centrale nucléaire de Pox, il y avait un combustible usé parce qu'ils ont eu un pépin. Eh bien, ils ont transporté ce combustible usé en pleine guerre d'Ukraine. Et ça a traversé la zone. Alors nous, on s'était complètement opposés. On a demandé à la Commission européenne d'intervenir, etc. Et c'est allé se stocker en Russie. Vous voyez ? Et donc, ils disaient, ah mais non, mais c'est pas un stockage. C'est... Ils vont essayer d'extraire certaines choses du combustible usé. Vous pensez bien
ça,
que...
c'est la bonne...
C'est vraiment...
La bonne explication que l'on a sur le retraitement des déchets usés dont on sait pertinemment qu'ils ne retraitent quasiment rien. Et...
Exactement. Mmh. Donc, on est hyper inquiet parce qu'on voit bien que... le talon d'Achille du nucléaire, c'est bien sûr un accident. Vous voyez, c'est vraiment l'anniversaire de Fukushima et les 30 ans de Tchernobyl. Mais c'est aussi toute la gestion des déchets radioactifs. Parce que ça, on ne sait toujours pas à quoi en faire. On ne sait pas diminuer la radioactivité de ces déchets radioactifs. Et donc, eh ben, on déplace le problème. Vous voyez, on va les stocker en Russie ou on va les stocker dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, puisque de toute façon, c'est contaminé. Alors, un peu plus ou un peu moins.
Oui, voilà, voilà. Ça risque de venir, en fait, je n'avais même pas pensé à ça. On avait vu un peu le problème de résilience, habituer les populations à habiter dans les zones contaminées. Et effectivement, ça pourrait devenir également, dans les 30 km, le dépôt des déchets nucléaires quasiment mondiaux. Quoi.
Ben exactement, parce que comme ils sont en manque de ressources financières, ils peuvent très bien faire un deal. Donc c'est pour ça que l'Europe est très importante, parce que là on peut essayer de bloquer, vous voyez, un certain nombre de choses, d'autant plus que l'Ukraine a besoin de financement européen pour maintenir son indépendance, etc. Et que moi je suis pour, pas question de faire en sorte à ce que la zone d'exclusion de Tchernobyl devienne la décharge radioactive de l'Europe, c'est pas possible.
Alors maintenant ils ont deux laboratoires quasiment in situ, c'est l'Ukraine et puis le Japon après Fukushima. On nous prépare définitivement à l'accident chez nous, c'est un peu la conclusion que vous tirez, quoi. C'est-à-dire qu'en gros on utilise...
Ah oui, moi je suis très très inquiète, je suis désolée là pour les auditeurs parce que on sort des attentats de Bruxelles. Mais je suis très inquiète parce que je vois que les gens ne veulent pas comprendre. Vous voyez, vous ne rendez pas compte au Parlement, chaque fois qu'il y a le problème du nucléaire, j'interviens pour leur dire « mais arrêtez de penser que c'est une énergie mortifère qui coûte une fortune, où on ne sait pas gérer les déchets radioactifs, on est incapable, on ne sait même pas démanteler toutes ces centrales. Et qu'est-ce que vous allez mettre votre peuple avec une dette incroyable sur, d'une part, sur le choix du nucléaire, et en cas d'accident, vous en porterez une responsabilité. » Mais alors, on dirait qu'ils sont complètement autistes, parce que, vous voyez, quand on rentre dans l'Europe, quand je vois les Polonais, par exemple, pour eux, d'avoir le nucléaire, c'est être au-dessus des autres pays qui les environnent. Vous voyez, parce qu'ils se disent, ah ben nous, on va aller dans le nucléaire comme les grands. Et donc, ils se disent, bon ben, on va pas choisir l'EPR, hein, ce nouveau réacteur qu'on construit à Flamanville, qui est une vraie catastrophe technologique et financière. Mais ils sont prêts maintenant à accepter un deal avec les Russes. Vous voyez, ils sont pour faire un réacteur, un Rosatom, qui est plus petit, plus low cost, etc. Mais c'est quand même incroyable. Ils veulent pas croire, ils ne veulent pas voir. Donc c'est, moi je ne fais plus confiance qu'au peuple.
Alors, il y a quand même eu une petite population qui a réagi là, en Corse l'an dernier. Les deux conseils régionaux, je sais plus comment on appelle ça en Corse, ont décidé de faire une étude, n'ont pas fait confiance à EDF, ni à Areva, ni aux instituts nationaux. Ils ont fait appel à des laboratoires privés indépendants, italiens, et l'étude est sortie l'an dernier, et elle démontre bien, donc là, une véritable étude épidémiologique pour la première en France, on est loin de l'Ukraine, mais le nuage est arrivé jusque là, et cette étude corse montre bien qu'il y a eu des cancers et des maladies d'athéroïdes beaucoup plus développées qu'auparavant en Corse suite à cette...
Tout à fait. C'est une expérience très intéressante ce qui s'est passé en Corse. C'est la collectivité territoriale corse qui a décidé de faire une étude, grâce d'ailleurs à une femme qui est très bien, qui était conseillère régionale, qui est toujours d'ailleurs, qui s'appelle Fabienne Giovannini, avec qui on a travaillé pour qu'il y ait une vraie étude indépendante. Alors déjà, il y a l'INVS, Institut National de Veille Sanitaire, qui est là. Ah mais nous, on est capable de faire l'étude. Et puis, mais on leur a dit, mais vous n'avez rien fait jusqu'à présent.
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Hein, vous êtes payé par l'État, vous n'avez rien fait. Donc nous, on veut absolument que ça soit des experts hors du cadre français. Parce que vous êtes trop soumis, vous avez trop de conflits d'intérêts, c'est pas possible. Donc on a fait un appel d'offres européen. Et il y a plusieurs personnes et il y a plusieurs pays qui ont répondu. Et on a pris l'institut, si vous voulez, où il y avait le plus de compétences en endocrino, en épidémio, etc. Et cette étude est formelle. Et c'était très intéressant parce qu'ils avaient pris une cohorte avant Tchernobyl de jeunes et une cohorte après Tchernobyl. Et en plus, l'avantage de la cohorte, c'est que ça passait que par un endocrinologue qui nous avait confié, enfin qui nous, pas à moi directement, mais à cet institut, confié plus de 5000 patients qui étaient passés justement par lui parce qu'ils avaient des problèmes thyroïdiens. Et donc on a suivi ça, et là les chiffres étaient très nets. L'augmentation de thyroïdite, l'augmentation de cancer de la thyroïde, etc. Il faisait même la comparaison entre les hommes et les femmes, ou les femmes chez les femmes, c'était un peu plus important que chez les hommes. Et après, on avait aussi, en fonction de là où ils vivaient, vous voyez, d'un point de vue géographique. J'ai fait une conférence de presse à l'Assemblée nationale, j'avais convoqué l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, IRSN, et là, ils étaient sur le détail en disant... Ah mais vous avez fait cette étude, mais est-ce que la CNIL était d'accord? Parce que vous comprenez, les 5000 personnes, vous aviez le nom, etc. Mais nous on a dit, mais le nom ne nous intéresse pas. Nous c'était les cas qui nous intéressaient. Et vous voyez, ils étaient tellement, vexés qu'on soit passé au-dessus d'eux, qu'il y a une collectivité qui a eu le courage de mettre de l'argent sur la table pour dire, on oui, veut ça, vraiment savoir ce qu'il en est. D'avoir fait appel à des experts italiens qui venaient leur faire la leçon en disant « Mais pourquoi vous n'avez rien vu ?» Alors que nous, vous avez un truc remarquable encore, c'est que tous les cas de Lille, on les avait. Et en plus, on avait tout le... voyez vraiment toutes les maladies qu'ils avaient, l'endroit où ils travaillaient, etc., etc. Et vous, vous avez été incapable de le faire. Et bien là, il conclut avec Marisol Touraine, cette ministre que j'adore, pour dire « Ah mais non, il y a des biais dans cette étude, etc. etc. » Toujours aucune reconnaissance. Vous vous rendez compte?
Alors qu'il pourrait faire...
86, accident de Tchernobyl, 2016. Oui. Alors c'était, il y a 2 ans, mais c'est incroyable. Comme quoi, moi ce qui me fait très peur, c'est que s'il y a un accident, il y aura la même omerta sur l'information. Parce que c'est des gens qui nous imposent le nucléaire et qui voudront surtout pas savoir. Et regardez maintenant à Fukushima. C'est la même chose pour les Japonais. Quand il y a eu l'accident, qui sont venus? Ce sont les experts de l'Agence internationale d'énergie nucléaire. Ils venaient dans les régions contaminées de Fukushima pour leur dire « Oh, mais vous savez, la radioactivité, c'est pas plus dangereux que 2 verres de saké. » Bon, donc, après, la population, elle vivait dans ces terres contaminées, elle cultivait. Moi, quand je suis allée, que j'ai rencontré les éleveurs, etc., mais ils me disaient « Mais moi, je sais pas ce que c'est que l'iode, je sais pas ce que c'est que le césium. » Nous, on pensait que c'était sûr, les centrales nucléaires. Jamais on nous a fait des simulations, jamais on nous a fait des...
Ce qui est le cas dans la Drôme notamment, où jamais personne n'a eu la moindre simulation d'un accident dans notre région.
Oui, alors ça a été un peu dans le cas des pompiers ou des gendarmes,
ils ont fait quelques essais, mais c'est pas...
C'était pire quand même au Japon.
Mais encore pire que ça.
Hein. Ah oui, oui. Et quand on a commencé, la CRIRAD y est allée là-bas, et puis des gens sont venus à la CRIRAD pour avoir du matériel, vous voyez, pour faire la mesure des aliments, ben déjà, ils savaient un peu ce que ça contenait, mais il a fallu faire de la formation plutôt que de dire aux gens, c'est pas plus dangereux qu'un verre de saké, franchement, c'est pas comme ça qu'on informe les gens. Et ben, même d'un point de vue médical, il y a eu des circulaires du gouvernement pour interdire de sortir les informations, vous voyez, concernant les médecins. Donc vous voyez que c'est pareil partout dans le monde. Il y a l'omerta. Et on essaie de jouer sur le fait que ces médecins puissent parler, puissent avoir un caractère humain. Ben, on est en train de les menacer, un peu sous couvert de confidentielle défense, quoi. Vous voyez, vous n'avez pas le droit parce que c'est des informations... de la raison d'État.
On conclura là-dessus parce qu'on a fini notre émission. Merci Michel. On fera une émission sur les fameux programmes de résilience. Je pense qu'on vous réinvitera à ce moment-là. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci à vous.
Alors, on n'a pas complètement fini l'émission, mais c'était pendant l'enregistrement. Nous sommes toujours là et Michel Rivasi vient d'évoquer les attentats bruxellois. Et Jeanne, tu veux nous parler justement du risque d'attentat et de la société policière nucléaire.
Voilà. Donc, Areva dit avoir pris en compte la menace terroriste pour les installations nucléaires de base et le PDG d'EDF parlait en novembre 2015 sur France 2 d'alerte maximale depuis les attentats de janvier 2015 et de vigilance extrême depuis les attentats de novembre. Alors on va voir ce que ça veut dire dans la réalité. Donc les moyens de lutte face à une intrusion. On compte 800 gendarmes répartis sur les 19 centrales. Ils sont formés aux risques toxiques et nucléaires par le GIGN. Aux alentours de 30 à 40 gendarmes par centrale, selon le nombre de réacteurs, ça peut paraître rassurant. Mais la réalité est qu'il n'y a que 4 ou 5 gendarmes sur site en permanence, du fait de l'organisation du service, les 3-8, les vacances. Donc ça, c'est sur les sites d'EDF. Sur les sites de traitement et de recyclage des déchets, sur les sites d'enrichissement de l'uranium, les services de sécurité ne font pas appel aux gendarmes, ils sont internes. Ce sont des salariés d'Areva armés. Ils doivent assurer la sécurité des installations et des matières nucléaires, mais également le traitement des incendies et des inondations. Ce sont souvent d'anciens sapeurs-pompiers de Paris ou des marins-pompiers de Marseille. Donc en plus, il y a la vidéosurveillance, les clôtures, les portiques, le gardiennage. Dans les centrales, ces tâches sont assurées par 750 agents d'EDF. Il faut ajouter la fermeture de tous les accès aux salles de commande et aux bâtiments réacteurs en cas d'intrusion. Mais la menace sur les sites peut être d'une autre nature. Car l'intrusion peut être informatique, c'est ce qui s'est passé dans une centrale iranienne. Elle peut aussi venir du ciel, les piscines de refroidissement des barres de combustible sont dans des hangars. Face au danger du nucléaire, les personnels sont-ils surveillés ? EDF mène près de 100 000 enquêtes administratives chaque année sur les salariés d'EDF et les sous-traitants. Areva mène 40 000 enquêtes administratives par an. Areva et EDF ont le même discours, pas de phénomène de radicalisation. Rappelons qu'en Belgique, dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris du 13 novembre, les enquêteurs ont trouvé une vidéo d'une dizaine d'heures surveillant le directeur général d'un centre d'études de l'énergie nucléaire. Cette surveillance était en lien peut-être, c'est en cours quoi l'étude, avec un terroriste ayant travaillé 3 ans dans la centrale de Dole. Entre les sites, chaque année, il y a les transports de substances radioactives qui ne sont pas protégés. 900 000 transports par route et par rail, de quoi donner des sueurs froides. Dans les années 70, un slogan des antinucléaires disait « L'énergie nucléaire, état totalitaire ». Le nucléaire sûr, ce serait donc une société policière avec de nombreux policiers dans toutes les usines nucléaires, encadrant tous les transports radioactifs, de quoi inverser la courbe du chômage et augmenter le prix du kilowattheure.
Et si ce n'était que l'augmentation, mais c'est vrai que de voir tous ces uniformes bleus tout autour de nos centrales, notamment dans notre vallée, ce ne sera pas une bonne chose. Céline, notre agenda.
Un speed agenda, parce que vous savez, c'est tout rapide. Donc le 6 avril, ce mercredi, nous recevons le liquidateur de Tchernobyl, Oleg Veklenko, qui sera reçu à la MJC du Grand Charan à Valence. Et donc on organise cette soirée avec l'association Réaction en chaîne humaine, et la soirée débutera donc avec le monologue théâtral Elena ou la mémoire du futur. Ça, c'est pour mercredi, donc voilà, c'est très bientôt. Le 15 avril, nous vous invitons à écouter l'émission Échange et regards sur Radio Méga, et nous participerons à cette émission. Le 16 avril, nous vous invitons à participer à l'action Action de centrale en centrale.
Je suis un petit peu perturbée.
Voilà, ton micro ne fonctionnait plus.
Donc voilà. Donc le 16 avril, l'action de centrale en centrale, où donc on vous invite à vous rendre devant chaque centrale et vous faire prendre en photo avec une banderole. Donc le plus simple, c'est quand même de prendre contact avec nous pour participer à cette action, parce que voilà, il y aura peut-être des petits groupes de montée. Et enfin, les deux derniers événements. Le 25 avril, notre réunion mensuelle à la FRAPNA, comme tous les mois. Et pour finir, le 26 avril, projection du film Atome au cinéma Le Navire à Valence. L'heure n'est pas encore définie, mais vous saurez très bientôt. Voilà.
Ben merci Céline, ben, tu as été un peu perturbée, on s'est rendu compte un peu tard que ton micro ne fonctionnait pas bien. Voilà, eh bien on va faire vite, notre émission se termine. Vous pouvez nous joindre sur le répondeur 08 05 69 67 58, l'appel est gratuit. Cette émission a été présentée aujourd'hui par Jeanne, Annie, Céline, Georges et Dominique et à la technique Jean-Pierre. Et bien nous concluons notre émission et la prochaine émission le 2 mai 2016. Bonne journée. Softly, stars.